D'abord, merci à ceux qui résistent à la tentation du beau ciel bleu de Montpellier, qui restent jusqu'à la fin. Une toute petite précision, c'est que lorsqu'on m'a demandé d'intituler mon intervention, j'avais prévu que ça serait le juge doit-il se contenter de faire œuvre de mémoire ? Et je crois qu'il a été retranscrit un peu autrement, et ce titre me gêne un peu. Le juge doit-il faire œuvre de mémoire ? Il me semble que ce serait un petit peu dramatique, une justice qui ne ferait pas œuvre de mémoire chez les victimes du passé. Donc le titre, c'est vraiment « Est-ce que le juge doit aujourd'hui se contenter de faire cette œuvre de mémoire avec la victime ?» Alors, tout d'abord, une petite présentation effectivement rapide. J'ai exercé pas mal de fonctions dans la magistrature, mais c'est vrai que celle qui m'a beaucoup enrichie, c'est celle de juge d'instruction à Lyon. J'ai été juge d'instruction une dizaine d'années et je dirais bien malgré moi, j'ai été un peu spécialisée sur les affaires de victimes parce que, en général, c'est un petit peu triste à dire, mais personne n'en veut ces affaires-là. Les magistrats sont beaucoup plus intéressés par les affaires de grand banditisme ou les affaires financières. Et lorsqu'on se met à s'intéresser à l'intrafamilial ou aux violences tout court d'ailleurs, pas forcément intrafamilial, eh bien, il y a très peu de candidats. Donc, je me suis retrouvée destinataire de tous ces dossiers dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent ces dossiers sur constitution de partie civile. C'est-à-dire que le parquet a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour établir les infractions, classement sans suite, et ensuite la victime se constitue partie civile devant le moyen des juges d'instruction pour faire repartir l'enquête. Donc ces affaires-là vont devant le juge d'instruction, et c'est vrai qu'il est souvent extrêmement difficile de remonter ces affaires parce qu'on se rend compte de tous les loupés du départ. Et c'est vrai que c'est là, à partir de ces dossiers-là, que j'ai entamé une réflexion sur la méthode qu'il fallait employer dès le départ pour que ces affaires ne soient pas plombées. Alors que très souvent, dans les constitutions de partie civile, il y a des vrais abus sexuels sur lesquels on est passé à côté. Voilà, donc j'ai été amenée à m'intéresser à ça, et puis au fil des idées, ça a fait un livre, et aujourd'hui je suis contente de m'associer à votre réflexion, et c'est vrai que l'intérêt d'être le dernier, c'est que j'ai bénéficié de toutes vos réflexions extrêmement riches. Lorsque je suis entrée dans la magistrature, c'était en 1982, j'étais juge des enfants dans le nord de la France, dans une toute petite ville où je dirais que 90% de mon activité, c'était des affaires d'inceste. J'avais jamais entendu parler de ça à l'école de la magistrature, donc il a fallu que je fasse face à ces affaires-là. À l'époque, j'avais très peu de délinquants, beaucoup de ces affaires d'inceste, de ces affaires intrafamiliales. Lorsque je suis arrivée, mon prédécesseur ne traitait ça que par la voie de l'assistance éducative. C'était en 1982. Et je peux vous dire que c'était des vraies affaires lourdes de tradition, le parquet de l'époque ne poursuivait pas les pères. On considérait que l'inceste était un problème éducatif et exclusivement éducatif, et on traitait ça par la voie de l'assistance éducative. Et c'est vrai que je le dis parce que c'est pas si vieux que ça, 1982. Alors quand on voit la masse de ces dossiers qui maintenant plombent les tribunaux, on se dit que peut-être, si on avait traité ça autrement, un peu plus tôt, on ne serait peut-être pas dans la situation actuelle. À l'époque, c'est vrai que l'inceste était considéré comme une espèce de violence ordinaire, une espèce de violence normale, j'ai envie de dire. Une espèce de violence dans laquelle la justice n'avait pas véritablement à mettre son nez. Lorsque je suis arrivée, heureusement j'avais une jeune substitut qui sortait de l'école comme moi. Donc magistrat du parquet, moi juge des enfants, on a complètement revu la chose. Et moi j'ai dit, il n'est pas question que je puisse traiter les affaires d'inceste en assistance éducative si parallèlement je n'ai pas des poursuites du parquet contre l'auteur. Donc les choses ont un petit peu changé progressivement, mais je pense que cette situation-là existait dans de très nombreux tribunaux. Voilà. Lorsque on constate la situation actuelle, c'est vrai qu'on est, peut-être aujourd'hui arrivé à l'inverse. quand on a vu que beaucoup de situations échappaient à la justice, et notamment celles qui passent par l'école. Il a été donné des instructions par le biais du ministère de l'Éducation nationale de ne pas s'ériger en juge de la gravité de ce dont ils sont témoins dans une école. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit que dès qu'une institutrice voyait un petit garçon qui touchait la fesse d'une fille, c'était un signalement au parquet. Et c'est vrai que de la situation de 1982 que j'ai vécue, on est arrivé à une autre situation un peu à l'inverse, qui est aussi très regrettable parce que je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, il ne faut pas judiciariser les jeux d'enfants. Et je crois que c'est aussi mais de plus en plus, c'est vrai que les parquetiers qui sont en charge des mineurs victimes sont véritablement sensibilisés maintenant à ces questions-là. Moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, avoir vécu à Lyon une affaire qui partait comme un viol collectif, hein, qui s'était passé dans une petite copropriété de gens à Lyon. Et les parents d'une petite fille qui avait une dizaine d'années étaient venus déposer plainte pour une tournante. Et quand on s'est aperçu de ce qu'il en était, eh bien, cette petite fille avait emmené en fait tous les petits garçons de la copropriété dans une cabane au fond du jardin. Et les petits garçons s'étaient un peu intéressés à son anatomie. Elle s'était d'ailleurs prêtée au jeu sans beaucoup de difficultés. Et un des petits garçons avait mis du papier dans son vagin. Et c'est en voyant ce bout de papier que les parents ont dit « ça y est, elle a été violée, elle avait qu'une tournante ». Alors c'est vrai qu'après, quand on a un peu travaillé la question, qu'on a fait parler de cette petite fille, bien entendu, on n'a pas fait présenter ces pauvres petits garçons de 10 ans qui ne faisaient que l'apprentissage de la sexualité, bien normal. Voilà, alors ça c'était un petit peu, je dirais, une introduction pour vous dire aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je le regrette un peu, des violences psychologiques, les violences psychiques, très difficiles à caractériser, qui pourtant, et vous le savez suffisamment mieux que moi, rendent les enfants complètement fous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un enfant qui vit avec une mère psychotique ? Est-ce qu'il faut le placer ? Est-ce qu'il ne faut pas le placer ? C'est un véritable problème. Je ne veux pas m'étendre plus sur ce problème parce que c'est vrai qu'il faudrait le développer et je n'ai pas le temps. Je vous renvoie simplement peut-être au livre de Maurice Berger qui est un livre controversé hein, qui s'appelle « L'échec de l'assistance éducative ». Je ne vous dis pas forcément qu'il faut penser comme lui, mais c'est vrai qu'il met le point sur une réalité d'aujourd'hui, c'est que actuellement les violences psychologiques sont vraiment souvent maltraitées par la justice, aussi bien au niveau de la protection de l'enfance que par la justice pénale. D'ailleurs, faut-il le faire ? Voilà, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé aujourd'hui. Actuellement, je suis à Bourg, je suis vice-présidente du tribunal, je dirige la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et je vais vous illustrer le problème par un exemple. J'ai une dame qui vient, je vais plutôt passer par le début. Un garçon frappe sa mère à répétition, il est majeur. Régulièrement, elle porte plainte et régulièrement, il est condamné devant la juridiction correctionnelle. Et régulièrement, elle obtient des dommages et intérêts. Et on recherche un peu ce qui s'est passé dans la vie de cette famille. On se rend compte qu'en fait, c'est une mère psychotique, que ce fils n'a jamais fait l'objet de placement. Il a été vu par un juge des enfants pendant toute son enfance. Simplement, c'était un éducateur qui venait constater les dégâts régulièrement, mais qui n'a jamais pris autre chose que la décision de le laisser au sein de sa famille, auprès de sa mère. Et plus tard, évidemment, il s'est mis à frapper sa mère. Et aujourd'hui, on est dans cette situation ubuesque où cette dame vient devant la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, réclamer les fonds publics pour être indemnisée des violences que lui a fait son fils, alors même que son fils est le résultat, enfin, ou une partie du résultat de la vie qu'elle lui infligeait. Voilà. Donc c'est une réflexion qu'on doit avoir sur quelle société on a envie d'avoir et quand est-ce qu'il faut protéger l'enfant pour ne pas avoir ces conséquences-là. Voilà, alors maintenant, le sujet à proprement parler, l'adulte qui a été maltraité pendant l'enfance et qui frappe à la porte de la justice. Eh bien évidemment, c'est quelqu'un qui est en souffrance, Souvent, il va nous dire que l'action judiciaire conditionne sa reconstruction. C'est d'ailleurs bien souvent parce qu'il a entamé une psychothérapie qu'il lui apparaît absolument indispensable de faire cette démarche judiciaire. Qu'est-ce qu'il attend ? Eh bien, il attend un accueil, une écoute, une reconnaissance de sa souffrance passée. Il attend aussi la condamnation de l'auteur et il attend évidemment la réparation de son préjudice. Le procès aura donc une grande valeur symbolique, puisque pour lui, ce sera la remise en ordre des culpabilités. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la culpabilité des victimes. C'est vrai, quand on est magistrat, on est souvent confronté à une victime qui se sent coupable et un auteur qui ne se sent jamais coupable. Donc c'est vrai que le procès, c'est aussi la remise en ordre des culpabilités. Alors est-ce que la justice est à la hauteur des attentes des victimes ? Premier problème, la justice va devoir mettre les faits à l'épreuve de la réalité, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue tout ça, même s'il est évidemment dans la mission du juge que de faciliter l'accès et l'accueil de la victime, c'est vrai qu'aussi son premier travail, et d'ailleurs le seul qu'on lui demande, c'est de savoir si les choses sont vraies ou si elles sont fausses. Donc, on fait une différence évidente, il faut faire une différence entre la réalité psychique et la réalité judiciaire. La réalité psychique et la réalité judiciaire étant également différentes de la réalité tout court. Donc, pour qu'il y ait condamnation de l'auteur, il faudra une certitude de la réalité de ces faits. Le moindre doute entraînera soit un non-lieu, soit une relaxe devant le tribunal correctionnel, soit un acquittement devant la cour d'assises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il n'y a pas de condamnation de l'auteur, et ça c'est très important pour les victimes, il faut qu'elles comprennent que ça ne veut pas dire qu'il y a une certitude de l'innocence. Ça veut dire seulement qu'il y a un doute sur la culpabilité. Ça, c'est fondamental à faire comprendre à une victime qui se prépare à venir devant la justice. Moi, je crois que quand une victime vient un peu dirigée par les psys devant la justice, il ne faut ni l'encourager ni la décourager. Il faut simplement lui dire quels sont les enjeux judiciaires. L'enjeu judiciaire, ça va être qu'effectivement, il ne pourra pas couper à l'examen de la réalité des faits, éventuellement des confrontations. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Contenceau, parce que moi, je sais qu'en tant que juge d'instruction, je ne confonds pas forcément un enfant à son agresseur, parce que je pense que on ne met pas l'enfant face à la réalité des faits, mais on ne met pas à l'épreuve la réalité des faits, mais seulement on met à l'épreuve la résistance psychique de l'enfant quand on fait une confrontation. Et c'est vrai qu'un enfant qui se rétracte, ce n'est pas forcément un enfant qui n'a pas vécu les faits, c'est quelquefois un enfant qui se décourage et qui n'a plus la force de poursuivre ce parcours judiciaire qui est souvent difficile. On a tous été extrêmement traumatisés, évidemment, par le procès Boutron, peut-être nous encore plus que vous, les psys. C'est vrai qu'on s'est tous dit qu'on pouvait être le juge Bourgault. Moi, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que dans la même situation, avec des enfants qui accusent, une mère qui confirme, est-ce qu'on aurait fait des choses différentes ? Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment le dossier. Ce qui est certain, et c'est vrai que je l'ai dit, moi, j'ai été entendue dans le cadre de cette commission dont on n'a pas beaucoup parlé, pourtant qui a fait un travail formidable, la commission qui a été faite sous la présidence du procureur général Viau, pas Viau, hein, mais Viau étant le psychologue qui a été mis en cause dans l'affaire Boutron. Et dans le cadre de cette commission, des professionnels ont été entendus pour qu'on puisse dire tout ce qui pouvait clocher dans la méthodologie. Et c'est vrai qu'on a très peu parlé de cette commission et de ses résultats, parce qu'au profit de la commission parlementaire, qui était beaucoup plus médiatisée. Et c'est très dommage, parce que moi, j'ai dit qu'on a un grand tort, c'est qu'à différentes époques, nous sommes systématiquement soit dans le credo, soit dans le non-credo de la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un effet de balancier qui fait qu'on ne sort jamais de cette bipolarisation, et qui fait qu'on ne fait jamais autre chose que d'être sur un terrain qui devrait ne pas être le nôtre. Je parle de celui de magistrat, bien évidemment. Moi, je ne dis jamais à un enfant que je rencontre, je te crois, parce que je pense que si je lui disais ça, ça serait légitimer le fait que je puisse lui dire je ne te crois pas. Donc, par contre, je lui dis t'es courageux, des choses qui sont d'un autre ordre. Ne pas lui faire croire que je suis sur le terrain du credo. Je pense aussi que beaucoup de psychiatres, et c'est vrai que c'est aussi le cas chez les experts, sont aussi tantôt dans cette espèce d'adhésion totale à la parole de l'enfant, tantôt dans cette défiance systématique. Et je crois aussi que les psychiatres sont parfois dans ce mauvais positionnement par rapport à l'enfant. Et pourtant, je pense qu'on peut tout à fait ne pas être dans la froideur, hein, en tant que magistrat. Moi, j'ai travaillé l'accueil de l'enfant. Ce qui est très important, vous savez, c'est pas tellement la parole de l'enfant, c'est les conditions dans lesquelles elle est recueillie. Hein, que l'enfant ne soit plus seul, qu'il soit accompagné par un administrateur ad hoc, qu'il ait un avocat. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un texte très récent qui oblige maintenant l'audition des enfants avec un avocat. Un avocat juste pour eux. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui est extrêmement positif parce qu'on voyait, jusqu'à une période récente, des enfants tout seuls devant le juge d'instruction, des juges d'instruction souvent pas très formés. Moi, la plupart de mes collègues, s'ils ne le disent pas, ils le pensent très fort, que pour savoir ce qui s'est passé, eh ben, il faut un petit peu rudoyer l'enfant. Parce que c'est comme ça que sortira la vérité, alors que c'est tout le contraire. Hein. Alors, quand mes collègues me disent ça, je leur dis, c'est vrai que le seul qui va se rétracter dans cette situation-là, c'est l'enfant victime. Parce que l'enfant éventuellement instrumentalisé, il passera la barrière sans aucun problème. Donc c'est l'enfant victime que vous ferez se rétracter si vous le mettez un peu en difficulté. Donc c'est très important d'accompagner cet enfant. Alors, le autre point que je souhaitais développer avec vous, c'est que, tout d'abord, on en a parlé, les violences sexuelles sont des véritables bombes à retardement chez les victimes, on le sait tous, et le législateur l'a compris. Et c'est la raison pour laquelle il a modifié les lois sur la prescription de l'action publique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la prescription de l'action publique, c'est la période pendant laquelle on peut poursuivre l'auteur. Au-delà, ce n'est plus possible. Les règles normales, c'est 3 ans après les faits quand c'est un délit et 10 ans après les faits quand c'est un crime. Les nouvelles lois sur la prescription, il y a eu plusieurs lois successives. Les nouvelles lois sur la prescription, c'est grosso modo 10 ans après la majorité de la victime, non plus à partir des faits, pour les délits, et 20 ans à partir de la majorité de la victime pour les crimes. Donc pour tout ce qui est viol par ascendant, inceste, etc. Et en l'inceste, c'est un terme qui n'existe pas dans notre code pénal. On parle de viol par ascendant. Les viols par ascendant, maintenant, c'est donc 20 ans à compter de la majorité. Mais, alors je ne vais pas aller dans le détail technique parce que ça ne vous intéresserait pas, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la dernière loi qui prévoit ces délais extrêmement longs ne sont pas applicables à tous les faits. Chaque fois qu'il y a un fait, il faut essayer de le dater et se demander à la date des faits quelle était la loi qui s'appliquait à l'époque sur la prescription. Donc en fait, cette loi qui permet 10 ans, 20 ans, c'est plus pour les faits à venir que pour les faits à... il n'y a pas de rétroactivité. Hein? Donc ça, c'est très important de le savoir. C'est qu'actuellement, les gens croient qu'on va pouvoir remonter à 20 ans pour faire valoir les faits d'inceste qu'ils ont vécu, non pas du tout. Hein. Par contre, pour ceux qui seront violés par leur père dans 20 ans, ils pourront remonter jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne vais pas plus loin dans le fonctionnement de la prescription de l'action publique parce que c'est un petit peu technique et c'est peut-être pas vraiment ce qui peut vous intéresser le plus. Alors, ces nouvelles lois sur la prescription, elles sont évidemment très très bien reçues par les victimes. Problème quand même pour nous, même si je pense qu'elles sont très bénéfiques. Premier problème, difficulté de la preuve. Heureusement, quand ça va jusqu'à la cour d'assises, on est dans l'intime conviction, donc on n'est pas forcément dans la preuve des choses. C'est vrai qu'il n'y a plus de recherche possible de sperme, c'est vrai aussi que les lieux ont changé, que les témoins sont morts, etc. Donc on se heurte souvent à un problème qui va être de construire un dossier suffisamment consistant pour aboutir à la preuve de la culpabilité de l'auteur. Et puis, deuxième problème aussi, c'est que on va avoir des majeurs de 25 ans qui vont comparaître devant le tribunal pour enfants, Et c'est pas rare du tout, ou par la cour d'assises des mineurs, parce que quand on se rend coupable de faits de nature sexuelle pour l'ancienne minorité, c'est l'âge de la date des faits qui détermine la compétence de la juridiction. Donc on voit quelquefois des situations un peu surréalistes de garçons qui ont 23 ans, qui sont devant un tribunal pour enfants pour des attouchements qu'ils ont faits quand ils avaient 14-15 ans, quoi. Alors évidemment, la réponse, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'attend la victime, c'est sûr. Mais néanmoins, moi je suis souvent en contact avec des associations de victimes et des associations d'aide aux victimes, et je me rends compte que les victimes sont quand même contentes d'avoir un peu inquiété l'auteur, même si ça ne va pas jusqu'au bout, hein, et qu'il n'y a pas forcément de sanction au bout. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer par, j'ai envie de dire mon dada, parce que c'est vrai que je le développe régulièrement. Le juge doit-il se contenter de faire œuvre de mémoire? Bien entendu, non. Si on devait uniquement faire le constat d'échec de ce qui a été fait, ça serait bien triste pour la justice. Je crois que les enseignements doivent être tirés. Et à partir de là, moi, je me suis intéressée au fonctionnement de la loi pénale, à la fois sur les victimes et sur les auteurs. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous donner simplement faire une lecture du texte concernant le viol. Au terme du code pénal, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà, 15 ans de réclusion criminelle avec des aggravations dans des situations où, par exemple, c'est le père, etc. Première distinction qui est faite par la loi pénale, la distinction entre le viol et les agressions sexuelles. Vous le savez peut-être, si c'est une agression sexuelle, c'est de la compétence du tribunal correctionnel. Si c'est un viol, c'est de la compétence de la cour d'assises. Est-ce que cette distinction est bonne? Moi, je me pose la question. D'abord, est-ce que le traumatisme est plus important quand il y a un viol plutôt qu'une agression sexuelle? Je ne suis pas sûre. On a parfois des pères qui ne violent pas et qui imposent à leurs enfants des scénarios d'une perversité extrême et qui sont, en termes de conséquences, bien plus graves que des agressions sexuelles. Donc, moi, je me pose la question de cette nécessité de faire cette distinction-là, sachant qu'au surplus, la loi, vous l'avez entendu, exige que la pénétration ait lieu sur la personne d'autrui. Ce qui aboutit à faire une espèce de distinction sordide où l'enfant, victime d'une fellation, c'est une agression sexuelle, et un enfant qui fait une fellation, c'est un viol. Voilà. Donc moi, je ne suis pas sûre que ce soit très utile de faire cette distinction-là. Moi, il me semble qu'il faudrait faire la distinction en fonction du lien que l'enfant a par rapport à l'auteur. Ça me paraîtrait beaucoup plus intéressant. Et évidemment, de mettre l'inceste dans l'infraction la plus grave. Autre distinction qu'exige la loi, vous l'avez entendu quand je vous ai lu le texte, il est nécessaire pour prouver le viol qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise. L'un de ces quatre éléments. Et moi, personnellement, je m'élève vraiment sur ces nécessaires qualifications. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sens de la loi, tout ça est nécessaire pour établir ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'infraction. Si on n'arrive pas à prouver qu'un enfant de 3 ans ou 8 ans, violé par son père, n'était pas contraint sous l'empire de la violence, de la contrainte, de la surprise, il n'y a pas de viol. Le fait que ce soit son père ou une personne qui a autorité, ce n'est qu'une circonstance aggravante. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on a des enfants en face de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'étais petit, puis c'était mon papa, quoi, hein, c'était normal, j'ai jamais envisagé autre chose que de m'y soumettre. Et c'est vrai que pour arriver à caractériser la contrainte, la menace, etc., c'est très dur. Conclusion, que font les magistrats? Souvent, ils ne caractérisent pas. Parce qu'ils ont l'impression, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui est répandu dans le public. On croit qu'il y a une présomption d'absence de consentement, voire un interdit posé dans la loi. Pas du tout. Actuellement, les magistrats se doivent de prouver dans le viol qu'il y a contrainte, menace, surprise, que ce soit un adulte ou un enfant. Et ça, je trouve que c'est scandaleux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux du législateur, il y a la place pour une relation sexuelle librement consentie entre un enfant et un adulte. Et moi, ça me paraît une perversité totale. On est souvent en face d'enfants qui, effectivement, d'abord ignorent la transgression qu'on leur fait vivre. On est souvent en face d'adultes qui simplement abusent de la relation d'affection. Moi, je pense que dans l'inceste, il n'est pas possible de réduire cette question à un viol ou une agression sexuelle, parce que l'inceste, c'est un crime contre la généalogie. Il me paraîtrait nécessaire de créer une norme absolue, exclusive de toute transaction possible. Je crois que c'est seulement à cette condition que la loi jouera son rôle structurant des comportements privés. Il n'est pas question aujourd'hui de créer des normes sexuelles dans les comportements. C'est pas ça dont je veux parler. J'ai entendu souvent, et d'ailleurs même le professeur Hayes, que j'avais rencontré antérieurement dans un précédent colloque, disait, mais qu'est-ce que vous pensez, madame le juge, du petit garçon qui va tous les jours chez son pédophile à vélo? Alors, voilà, est-ce que de dire que l'enfant a une sexualité qu'éventuellement il peut être perverti et en redemander d'ailleurs, est-ce que ça ne pose pas quand même un problème? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que la loi demande à l'adulte de poser l'interdit? Et c'est vrai que le fonctionnement de notre loi fait que on est obligé de demander à l'enfant, pour établir la contrainte, la menace, la surprise, on est obligé de lui dire mais qu'est-ce qui fait que tu t'es laissé faire? Et quand on pose cette question à l'enfant, c'est véritablement le mettre dans une position de culpabilité. Et moi je pose vraiment la question: Est-ce que le fonctionnement de la loi pénale ne vient pas invalider le travail psychologique qu'il peut faire chez vous quand chez vous, on va lui dire « Mais non, la culpabilité, c'est pas chez toi, c'est chez l'auteur, etc. » Moi, il me semble qu'il faudrait créer ces repères essentiels, que ce soit l'interdit de l'inceste dans notre loi, ou même que ce soit, d'ailleurs, l'interdit d'une relation sexuelle avec un enfant, reste après à définir un âge, peu importe, 10, 11, 12, 13, bon, je ne sais pas, peu importe, c'est pas intéressant à la limite, mais que quand un enfant est dans la réciprocité sexuelle, il y a un interdit posé à charge de l'adulte. Et c'est vrai que quand je repasse en revue mon expérience professionnelle, je me dis, mais ceux qui comprennent le mieux le dysfonctionnement de la loi, eh bien, je peux vous dire, c'est les agresseurs sexuels. Parce que la première chose qu'ils vous disent dans un bureau, quand c'est pas « il ment », eh bien, en général, c'est « il était d'accord ». Et à partir du moment où on ne peut pas lui répondre, mais quelle que soit l'adhésion de l'enfant, ce que vous avez fait est interdit, je dis qu'on ne peut pas réaliser la mission qui nous est impartie. De même que l'enfant ne doit pas s'entendre dire que c'est un petit pervers. Peu importe. Moi, je crois qu'il est très important d'assurer aux enfants l'innocence totale sur le plan juridique, précisément pour leur pouvoir de travailler leur culpabilité sur le plan psychique. S'ils n'ont pas cette innocence qui leur est donnée, eh bien, à mon avis, ils ne peuvent pas faire travailler chez vous. Et c'est la raison pour laquelle je milite un peu sur cette loi qui a fait l'objet d'un projet. Sous Père Ben, et puis Père Ben est parti, c'est tombé aux oubliettes, et puis peut-être ça va être retravaillé par notre ministre actuel, j'espère. Voilà, je ne sais pas si je vous ai un peu convaincu, mais pour moi c'est un projet qui me paraît fondamental, parce que c'est un peu à cette condition que les petites filles continueront de faire tourner leur robe, comme dit Souchon. Sous les yeux de leur papa, sans rien risquer. Et puis c'est aussi à cette condition qu'on ne demandera pas aux petites filles de se mettre du burqa, non pas sur la tête, mais dans la tête.